Merci d'écouter RFI, les 5h30 à Paris, 6h30 à Goma. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal, le M23 continue de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le groupe armé occupe désormais l'agglomération de Walikale dans la province du Nord Kivu, au cœur de la région minière et à 200 km à l'ouest de Goma. Explication dans un instant. Dans ce journal également, l'élection de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry à la présidence du Comité international olympique. Première fois qu'une femme issue du continent africain prend la tête de l'organisation. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il assure que son pays n'a pas l'intention d'envahir l'Érythrée, vous l'entendrez. Le Kenya, Nairobi qui suspend l'importation d'aliments et de semences OGM. Et dans une dizaine de minutes, les sports avec Antoine Grenier et les matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de football. 9 rencontres hier, 11 aujourd'hui et des favoris qui commencent à se détacher, nous dira Antoine Grenier. L'agglomération de Walikale est donc désormais occupée par les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors qu'on les attendait mardi à Luanda, la capitale angolaise, pour ce qui aurait été les premières discussions directes avec les autorités de Kinshasa, les rebelles ont progressé mercredi dans la province du Nord Kivu et donc précisément dans le territoire de Walikale, région minière et nœud stratégique vers d'autres grandes villes, nous explique Esdras Sendikouman.
Attendu mardi, le M23 a décliné l'invitation du président angolais pour ses premières discussions avec le gouvernement congolais à Luanda et a préféré pousser son avantage militaire pour s'emparer dès le lendemain de l'agglomération de Walikale centre à quelques 250 km à l'ouest de Goma, analyse un chercheur congolais, comme pour dire qu'il n'était pas concerné par ce qui s'est passé à Doha, ajoute-t-il. Chef-lieu du territoire de Walikale et fort de 60 000 âmes, Walikale centre est au cœur de la région minière considérée comme la plus riche de l'est du Congo. L'agglomération est également située au bord de la route nationale numéro 3 qui mène vers Kisangani, la capitale de la province de la Tchopo, et vers Kindu, celle de la province du Maniema. Signe de son importance, le nouveau commandant de la 34e région militaire des FRDC, le général Constantin Muhundisi Muyusa, qui avait habituellement son siège à Goma, aujourd'hui occupé par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, venait tout juste d'y installer son état-major général. Hier, un camp très précaire a régné jusqu'à Moubi, à quelques 30 km de Walikale centre, où se sont repliés de nombreux habitants en provenance de cette agglomération, ainsi qu'une partie des militaires congolais basés dans la zone selon des témoignages recueillis par RFI. Ils disent attendre anxieusement la suite des événements.
Esdras Ndikoumana, dans le même temps à Kinshasa, deuxième audience hier au procès des généraux de l'armée et de la police accusés d'avoir fui face à l'avancée des rebelles du M23. Quand ces derniers se sont emparés de Goma, les juges ont décidé que l'audience se déroulerait à huis clos. Elle a été consacrée principalement à des questions de procédure. La Cour prévoit de répondre à ces questions mardi prochain et elle devrait ensuite pouvoir aborder le fond de l'affaire. Kinshasa également, où la plateforme des confessions religieuses lance à son tour son initiative de dialogue, à l'image de ce que font déjà depuis plusieurs semaines les églises catholiques et protestantes. La plateforme des confessions religieuses, ce sont notamment les musulmans orthodoxes, les églises évangéliques et kibanguistes. La rencontre va-t-elle cette fois bien avoir lieu? Rencontre prévue entre le président rwandais Paul Kagame et le chef de l'armée ougandaise, fils du président Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Au début du mois, un ministre ougandais affirmait que les deux hommes, qui sont par ailleurs proches, s'étaient vus à Kigali avant que cela ne soit démenti. Hier, le général ougandais est bien arrivé dans la capitale rwandaise et un entretien est prévu avec Paul Kagame, correspondance de Lucie Mouillot.
À son arrivée à l'aéroport de Kigali, le général Muhoozi Kainerugaba a été accueilli par son homologue rwandais, le chef d'état-major et général Mubarak Muganga. Accompagné par le journaliste Andrew Mwenda, l'un de ses proches conseillers, et le général de brigade Asingura Kagoro, responsable juridique de l'armée ougandaise, le fils du président Yoweri Museveni doit au cours de sa visite, selon le communiqué des UPDF, rencontrer plusieurs dirigeants militaires rwandais ainsi que le président Paul Kagame. Fin février, le général annonçait déjà sur les réseaux sociaux son déplacement prochain à Kigali, ajoutant qu'il signerait un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda. Pas de référence à ce pacte dans le communiqué de Kampala, qui déclare simplement que cette visite souligne, je cite, « les efforts continus pour renforcer la collaboration et la compréhension mutuelle entre les forces armées des deux nations ». Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et rappelons que les forces armées ougandaises sont déployées en ce moment en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, où elles sont alliées aux forces armées congolaises, mais qu'elles sont aussi pointées du doigt par les experts de l'ONU pour leur soutien au M23.
RFI.
C'est une première à double titre qui s'est jouée hier en Suisse à Lausanne. Le Comité international olympique choisissait un successeur à son président Thomas Bach et c'est une femme africaine qui l'a emporté. En l'occurrence, l'ex-nageuse zimbabwéenne Kirsty Coventry. Première fois donc qu'une femme et qu'une représentante du continent prend les rênes de l'organisation. Élue même dès le premier tour de scrutin. Comment son élection s'est-elle jouée? On voit cela avec Baptiste Leduc.
Bien sûr, il y a le mouvement de l'histoire, de la nouveauté derrière l'élection de Kirsty Coventry. Si les Jeux Olympiques ont voyagé partout, sauf en Afrique, leur comité international n'avait jusqu'ici été présidé que par des Européens ou des Américains. Une femme africaine à la tête du CIO, ce n'est pas anodin. Son âge non plus. L'ex-nageuse, championne olympique du 200 mètres d'eau en 2004 et 2008, accède à la présidence à 41 ans. Ce qui fait de Kirsty Coventry la plus jeune personne à occuper le poste, depuis le baron Pierre de Coubertin lui-même. Ce vent de fraîcheur a séduit, tout comme la capacité de Coventry à rassembler le monde olympique. Son programme, pour l'instant, se veut très consensuel, dans la lignée directe du travail de son prédécesseur, l'Allemand Thomas Bach. Cette filiation est d'ailleurs l'autre explication de la victoire de Coventry. Ces dernières années, Thomas Bach a poussé la Zimbabwéenne sur le devant de la scène, jusqu'à appuyer sa candidature, pas officiellement en tout cas, mais elle semblait avoir les faveurs de l'ancien fleurettiste. Cela devrait faciliter la transition, mais pas le travail de Kirsty Coventry. Question des athlètes transgenres, intégration de la Russie, les défis qui l'attendent sont nombreux.
Et la Russie, justement, qui a réagi hier par la voix de son président Vladimir Poutine, qui l'a félicité, le chef de l'État russe se disant convaincu que la Zimbabwéenne convaincu de son intérêt pour la promotion des nobles idéaux olympiques, dit-il. Globalement, l'élection de Kirsty Coventry ne souffre d'aucune contestation parmi les autres candidats. Juan Antonio Samaranch Jr., par exemple, estime qu'avec cette élection, on avance vers l'avenir. L'anglais Sébastien Coe, lui, se félicite de voir une athlète à la tête du Comité international olympique. Côté africain, on n'est pas en reste, puisque l'Union africaine a réagi, saluant une décision historique, et lui a se dit très heureuse de la voir faire tomber des barrières en ouvrant la route à un avenir équitable et inclusif pour les sports. Et le ton est le même pour le vice-président du comité olympique congolais, Christian Matata.
C'est une fierté de voir l'une de nôtres occuper un poste aussi important et prestigieux pour qu'aujourd'hui la voix des Africains puisse aussi être valablement défendue au niveau des instances supérieures du sport. C'est quelqu'un qui connaît les difficultés de nous Africains en termes de développement, en termes d'infrastructure. Donc nous osons croire qu'avec sa présence au niveau du Comité olympique international, la voix des Africains pourra valablement être défendue.
Christian Matata, le vice-président du Comité olympique congolais, des propos recueillis par Olga Massangou. Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, la Centrafrique, à Bangui, où l'on apprend l'arrestation de deux frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, accusé de faire partie d'une conspiration en vue d'empoisonner le président Faustin Archange Touadéra. Leurs proches dénoncent de leur côté une arrestation politique, alors que l'ex-chef du gouvernement est un des candidats pressentis pour la prochaine élection présidentielle. En Algérie, 10 ans de prison ont été requis hier contre Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien poursuivi pour des faits présumés d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie après des propos tenus dans un journal français. Hier soir, le président français Emmanuel Macron a dit souhaiter une issue rapide pour que Boualem Sansal puisse retrouver sa liberté. L'eau est bien un sujet majeur pour l'Éthiopie, que ce soit l'eau douce du Nil sur lequel Addis Abeba a construit un gigantesque barrage qui lui vaut des relations difficiles avec les pays situés en aval, notamment l'Égypte. Le chef du gouvernement a promis hier une inauguration officielle dans les 6 prochains mois. Et l'eau de mer, l'Éthiopie est enclavée depuis l'indépendance de l'Érythrée et elle a par exemple passé l'an dernier un accord avec la région séparatiste du Somaliland pour un accès à son port. Hier, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a répété que son pays n'envahira pas son voisin érythréen. Alors que les relations entre les deux pays sont de plus en plus tendues, il s'exprimait hier devant l'Assemblée générale à Addis Abeba.
Notre besoin d'obtenir un port sur la mer Rouge, que ce soit via la Somalie, Djibouti ou l'Érythrée, ne devrait pas causer de conflit avec ces pays. Je tiens à dire devant cette assemblée que l'Éthiopie n'a aucun désir d'attaquer l'Érythrée afin d'obtenir un port sur la mer Rouge. Notre seul désir est de discuter, de négocier, de participer au commerce mondial. Nous ne voulons pas de conflit, nous ne voulons pas de guerre. Nous entendons de nombreuses accusations de la part du peuple érythréen notamment, mais ces accusations ne tiennent pas la route. Nous n'anticipons pas une attaque des pays voisins. Nous nous sommes équipés, mais la seule raison pour laquelle nous l'avons fait est pour maintenir la paix. Lorsqu'il y a eu le conflit entre le Kenya et la Somalie, nous avons été médiateurs. Nous avons aussi fait la médiation au Soudan du Sud. Nous voulons la paix dans cette région.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Enfin, au Kenya, c'est une question de souveraineté alimentaire. Les OGM, aliments et semences génétiquement modifiés, ne peuvent plus pour l'heure être importés. Décision temporaire d'une cour d'appel de Nairobi et nouvel épisode judiciaire en fait après que le gouvernement kényan a levé l'interdiction des OGM en 2022. Épisode en tout cas vu comme une victoire, surtout pour ceux qui se battent contre les semences stériles à usage unique. Un reportage de Gaël Alex.
Down, down, GMO. Askini Asker Ungo vient du comté de Migori à la frontière avec la Tanzanie. Elle cultive du maïs, des haricots, des arachides, des patates douces et du manioc sur 4000 m². Ses semences, elle les tient de son père.
Je prends mes graines dans mon jardin, je les sélectionne et les garde au sec pour la culture suivante. Elles sont gratuites. Les graines OGM, 2 kilos peuvent coûter 1000 shillings, plus de 7 euros. Elles ont besoin de pesticides et d'irrigation, on n'a pas tout ça.
Pour augmenter les rendements agricoles, le gouvernement kényan a pris deux mesures. Autoriser les OGM et interdire les semences indigènes. Sylvanus Kasiti est membre du groupe de référence de la société civile.
Les gens ont toujours échangé leurs graines, mais